Merci Bernard. Voilà, je vais donc. On avait laissé un petit suspense, mais qui a été bien rempli par les ateliers. Et merci aux animateurs et animatrices de ces ateliers. Je suis passé dans deux, et malheureusement, je dois m'excuser auprès de l'atelier chant, mais j'ai papoté à la place de chanter. Et je voudrais donc parler une petite demi-heure, et puis ouvrir un petit espace de 10 minutes, un quart d'heure pour d'éventuelles questions, réflexions de votre part, donc pour vous donner la parole. Je voudrais redire ceci, que j'ai déjà évoqué ce matin, mais je voudrais le redire pour vous dire vraiment une conviction. Et une conviction, c'est pour la partager, hein, c'est pas pour vous convaincre, c'est pour vous dire au moins celle qui m'habite et celle qui me permet d'avancer donc à la rencontre de cet homme qui nous devance et qui nous précède vers la Galilée. Cette conviction, c'est que nous sommes contemporains, mais vraiment dans le sens le plus fort du terme, on est contemporain de cet homme Jésus de Nazareth quand on est en contact avec sa parole et avec son esprit. Et c'est une contemporanéité qui vaut bien l'expérience d'avoir été physiquement et oculairement contemporain de Jésus de Nazareth il y a 2000 ans. Pour le dire autrement, ça n'avait aucune importance d'être physiquement présent devant un monsieur Jésus de Nazareth qui, à coup sûr, quand il passait dans les rues de Galilée, vous ne vous seriez pas retourné pour ni l'observer, ni le regarder, ni entrer en contact avec lui si lui-même n'était pas entré en contact avec vous, ou si, à l'occasion d'une de ses paroles, de ses discours, vous vous étiez dit « Ah, ça me parle !» Donc ce n'est pas l'homme que vous auriez rencontré, parce que Jésus a été non pas inodore et incolore, je ne dirais pas un tel blasphème, mais il n'a pas fait la une. Une des preuves d'ailleurs, c'est qu'aucun contemporain qui relate des chroniques ou des événements de la vie de la Palestine du début du 1er siècle n'a jamais évoqué Monsieur Jésus de Nazareth, fils de Joseph et fils de Marie. Ça n'est jamais arrivé. Donc la seule chose que l'on sait, c'est les évangiles. Et les évangiles, c'est quoi? C'est pas une vie de Jésus. Ce n'est pas une biographie d'un monsieur qui a existé, c'est le témoignage vécu et ressenti d'hommes et de femmes, parce qu'il y avait des disciples féminines, d'hommes en tout cas qui ont écrit quoi, comment Jésus leur avait parlé. Et donc les évangiles, c'est le témoignage ou la trace d'une parole parlante. Et c'est donc bien cette parole qui est aussi la manière dont Jésus communique son esprit. Je vous rappelle que Jésus, juste avant de mourir, en tout cas dans l'évangile de Jean, dit qu'il va mourir, mais que ce qu'il donnera en mourant, ce qui fait de sa mort un don de vie, et c'est ça qu'on veut dire en disant qu'il est ressuscité, qu'il donnera en mourant son esprit. Et son esprit, c'est un souffle, c'est une respiration, une inspiration. Donc quand on parle de l'Esprit Saint, on ne parle pas de je ne sais quel être métaphysique qui fait partie de je ne sais quelle Sainte Trinité, on parle d'un souffle de l'Esprit même de Jésus qui fait que l'on communie à ce qui a été décisif pour lui et qu'il est toujours dans cette contemporanéité et cette actualité qui est la nôtre. Donc je le redis et je le répète au risque de me répéter, nous ne sommes pas moins contemporains qu'on ne l'était à l'époque de Jésus, et même la preuve, c'est qu'on ne l'était pas nécessairement quand Jésus existait, et on est davantage contemporain de Jésus de Nazareth en 2021 si on est inspiré de son souffle et si sa parole nous parle. Puisque j'ai pris et fait une comparaison avec Mozart, elle me paraît aussi indiquée. Qui a rencontré Mozart et qui a été touché par sa musique au point de se dire que dans l'histoire de l'humanité, il y en a peu qui ont pu ainsi faire entendre le jaillissement de la vie, se souffrir et se réjouir? Les contemporains de Mozart? Ben, du temps de Mozart, il y avait beaucoup de surdité à sa musique. Qui a été contemporain de Mozart? Celui qu'il croisait dans une rue de Vienne, ou celui qui, aujourd'hui, en mettant le concerto numéro 24, se dit que ça lui parle? Qui est le plus contemporain des deux? Ben, celui qui écoute Mozart aujourd'hui. Il en va exactement de même avec Jésus de Nazareth. Quand vous voyez donc aujourd'hui une image, atelier sur l'art, ou une chanson, ou un film, ce n'est pas pour vous replonger dans une sorte d'identification à Jésus tel qu'il était il y a 2000 ans, dont nous ne savons pas la tête qu'il avait. Il y a même deux tendances qui se sont très très vite manifestées, l'une pour dire que Jésus était très beau, et l'une pour dire qu'il était très laid. Et la plus ancienne tradition, et la plus attestée, c'est qu'il était très laid. Ce qui le rapproche d'un autre grand monsieur de l'histoire, qui était un peu comme Jésus, c'est-à-dire il parlait de telle manière que les gens entendent que ça leur accouchait d'une parole, qui exerçait l'art de la maïeutique, et qui était, paraît-il, le plus laid des hommes, monsieur Socrate. Donc Jésus, c'est pas chercher le beau visage de Jésus, et c'est même pas chercher le monsieur qui a existé il y a 2000 ans, dont nous ne savons presque rien. Et je ne dis pas ça parce qu'on n'en sait rien grâce aux évangiles, mais les évangiles, par exemple, ne font aucunement une description psychologique de Jésus. Vous auriez envie de raconter sa vie, aujourd'hui vous passeriez par une description physique et surtout par une description psychologique. Il n'y a rien de tout ça dans les évangiles. Donc Jésus, ce n'est pas la recherche par le film, l'image d'un Jésus qui a existé, et il a existé. C'est des expériences d'intelligence sensible, parce qu'il faut les deux. L'intelligence, elle est sèche si elle n'est pas nourrie et si elle ne jaillit pas en sensibilité. Et la sensibilité, c'est de la sensiblerie si elle n'est pas ouverte à une nouvelle compréhension de la vie. Eh bien, quand on est en contact avec une image, un film, etc., ça nous parle ou ça nous regarde quand on en tire une intelligence du cœur, qui est exactement ce que Jésus ne cesse d'inviter, à commencer par ses disciples dans les évangiles. Dans l'évangile de Marc, qui est mon préféré, mais les autres c'est bien, hein, l'évangile de Marc, ce qui fait de moi un martien, avec un C. Donc, dans l'évangile de Marc, Jésus parle très très peu de foi. Non pas que la foi n'a pas une importance décisive. Ta foi t'a sauvé, c'est bien ce que entend Bartimée, c'est aussi ce que entend la femme qui est en écoulement de sang depuis 12 ans. Mais ce n'est pas le thème principal, étrangement, de cet évangile. Le thème principal, c'est la compréhension ou l'incompréhension des disciples. Si vous relisez l'évangile, vous serez frappé de voir le nombre de fois où Jésus dit à ses disciples, mais quand est-ce que vous allez comprendre ? Vous ne comprenez pas encore ? Vous avez des oreilles et vous n'entendez pas, vous avez des yeux, vous ne voyez pas, mais est-ce que votre cœur est endurci, épaissi ? Et donc, c'est même à ce point que l'on peut dire que le disciple dans l'évangile de Marc, c'est vraiment celui qui s'en prend, mais alors là, donc il y a une ironie de Marc, hein. Il veut dire que celui qui se dit disciple de Jésus, il faut encore qu'il se demande de quelle fidélité à Jésus il est le disciple. Et la fidélité, c'est entendre et comprendre. Avoir des oreilles pour entendre, des yeux pour voir. Et ça, c'est ce que j'appelle donc entendre l'inouï. L'inouï, c'est ce qu'on n'a pas encore entendu de l'Évangile, parce qu'on entend toujours que ce qu'on a toujours déjà entendu. Et c'est cette pétrification de ce qu'on a entendu depuis 2000 ans qui bien souvent nous empêche d'entendre cet inouï, c'est-à-dire cette réserve de sens qui est devant nous, qui est l'avenir de l'Évangile. En fait, tout a tellement été dit et écrit sur l'Évangile qu'on n'entend plus ce qu'il dit. C'est pas que ce qu'on a dit et écrit n'était pas juste, mais c'était un chemin qu'il nous faut à nouveau prendre pour bien entendre. Et comme la surdité et l'aveuglement ne sont pas deux tares physiques dans les évangiles, mais deux handicaps de cette sensibilité intelligente, il nous faut toujours davantage être et plus sensible et plus intelligent. Je dirais même que s'il y a un vrai péché dans le christianisme, c'est la bêtise. Et ça tombe bien pour des enseignants. qui sont confrontés à la bêtise des élèves et à la leur, c'est-à-dire à la nôtre. Et qu'il n'y a pas d'autre enseignement qui ne veut pas seulement communiquer des informations, des croyances, des contenus, des matières, il n'y a pas d'autre enseignement qui ne vise à nous rendre tous, les uns et les autres, un petit peu plus intelligents et un peu plus sensibles. Et ça, si déjà on arrivait à ça, on gagnerait, à mon avis, en écoute de l'inouï de l'Évangile. On pourrait, par là, ouvrir aussi tout l'évangile de Marc, et je vais simplement vous en ouvrir le début pour vous indiquer quoi. On a rencontré des images qui nous regardent, on a entendu une parole qui nous parle, mais il reste un texte, celui des évangiles, et ce texte présente à nous comme le lieu matériel où on peut toujours entendre cette parole qui nous parle. Je veux dire par là, les évangiles, ce sont des témoignages qui parlent d'une parole qui a parlé il y a 2000 ans et qui a encore la possibilité de nous parler aujourd'hui. Comment sait-on qu'on a compris l'évangile ? Par cette expérience toute simple, on sait qu'on a compris le texte que l'on lit quand on se sent compris par le texte. Je vais le redire. Comment sait-on qu'on a compris quelque chose de l'évangile que l'on lit ? Donc beaucoup de gens disent « c'est compliqué ». Mais ce qui est compliqué, c'est le catéchisme qu'on en a fait. Parce que Jésus dit, c'est la simplicité des choses profondes. Alors la simplicité des choses profondes, c'est toujours profond. Et c'est toujours d'une profonde simplicité. Donc il faut beaucoup de temps, il faut toute une vie, et même pas assez d'une vie, pour y aller plus loin. Mais donc, le critère, c'est quoi ? Quand vous lisez un passage de l'Écriture, vous l'avez compris quand vous vous sentez compris par ce que vous lisez. C'est ça la condition sine qua non de l'entrée dans la nouvelle intelligence de l'Évangile. Se sentir compris par le texte. Quand on dit en français, allez, vous avez, on connaît tous heureusement cette expérience, parce que je vous parle de quelque chose que vous connaissez si bien que mes mots ne sont là que pour, j'espère, faire jaillir en vous plein de quoi ? Plein d'expériences de rencontres. Ou devant quelqu'un, soit inconnu ou connu, une personne chère de votre famille, votre conjoint, vos enfants ou quelqu'un dans le train, après une conversation, vous vous dites, parce que c'est quelque chose que l'on ressent, « Ah ben je me suis senti compris ». Ça, c'est l'expérience que font les deux disciples d'Emmaüs. Notre cœur n'était-il pas tout brûlant au-dedans de nous pendant qu'il nous ouvrait les Écritures et nous parlait en chemin ? Les disciples se sont sentis compris. Et c'est ça qui leur a ouvert les yeux. Et ils ont vu en cet homme, dont ils pensaient qu'il était mort par un bête échec, ils ont vu une réussite, c'est-à-dire la possibilité de vivre d'une vie nouvelle. Quand ils ont senti ça, c'est parce qu'ils se sont sentis compris. Quand je dis « je me suis senti compris », c'est un parfait synonyme pour dire « je me suis senti aimé ». Quand je me sens compris, c'est qu'une parole, un texte, un geste, une rencontre me dit « il est bon que tu existes ». Le texte de l'Évangile, il est l'icône, le visage, le texte qui sans cesse vous renvoie ça. Il vous demande de le comprendre pour que vous vous sentiez compris par lui. Et c'est ça qui va augmenter et dilater et votre intelligence et votre sensibilité. Et c'est cette clé de lecture qui va vous ouvrir la clé de compréhension de tout ce qui est écrit dans l'Évangile. Se sentir compris par lui. Vous voyez qu'il y a deux manières d'être devant le texte. Et de manière qu'ils sont justifiés chacune dans leur ordre. On peut être devant un texte comme devant un texte extérieur à soi. Et alors on en prend connaissance. On essaye de le comprendre en cherchant à savoir ce que les mots veulent dire, ou dans quel contexte historique il a été écrit. On veut savoir qui l'a écrit, on veut savoir est-ce que ça s'est vraiment passé comme on le lit. Toutes ces questions sont des questions qui sont bonnes à poser, sont des questions justes et qui se justifient. Mais elles ne répondront jamais à l'intention qui a présidé à l'écriture des évangiles. Les évangiles ont été écrits pour que, quand vous les lisez, ils deviennent ce qu'ils sont, c'est-à-dire une bonne nouvelle, une heureuse annonce. On lit un évangile pour entendre l'évangile qui nous parle. Et on se dit, c'est parlant, ça me parle. Parce que imaginez une bonne nouvelle qui ne soit pas, quand elle est communiquée, une bonne nouvelle. Le seul principe qui autorise de dire que l'évangile est une bonne nouvelle, c'est qu'il vous en communique et la nouvelle et la joie. De sorte que si vous lisez quelque chose de l'évangile qui ne conduit pas à vous ouvrir à une nouvelle, peut-être que vous n'attendiez pas, mais qui est tellement bonne à entendre que vous vous dites « ça me parle », si vous avez cette expérience, c'est que vous êtes en contact, en contemporanéité avec la parole et l'esprit de Jésus de Nazareth. Je le redis, le seul moyen de savoir si on a compris un passage de l'Évangile, c'est de se savoir ou de se sentir compris par ce qu'on lit. Je vais vous en donner maintenant, pour terminer, un exemple. Et je le prends dès le départ, au tout début de l'évangile de Marc, qui d'ailleurs est le seul évangile qui commence par dire son premier mot, commencement. C'est comme les films qui, dans le temps, mettaient « the end » à la fin. Mais quand vous êtes à la fin, il n'y a pas besoin de dire que c'est la fin, mais quand c'est le commencement, pourquoi dire que c'est le commencement ? Mais parce que c'est un vrai commencement, dans tous les sens du terme. D'abord, il n'y avait jamais eu d'évangile écrit avant que Marc décide d'en écrire un. Et puis ce qu'il vous écrit, c'est pour que quelque chose commence et recommence en vous. Et ça, c'est toujours important de lire des choses qui nous font commencer et recommencer. Dès qu'il a ouvert son commencement, Marc nous fait nous adresse ceci. Il nous dit, ce que je vais vous raconter, qui est un commencement, c'est un commencement qui est pourtant un commencement qui a un long temps derrière lui. Ça n'arrête pas de commencer, et c'est même Isaïe qui le dit. Et parce que les commencements, il nous faut beaucoup de temps pour les entendre, eh bien, on envoie des gens, des prophètes, jusqu'à Jean, pour nous faire entendre ce que nous risquerions de ne pas entendre si on n'a pas les oreilles pour l'entendre. C'est pour ça que ce que dit l'Évangile n'a absolument aucune nouveauté par rapport à tout ce que l'on peut lire dans le Premier Testament. Mais ça me demanderait rien qu'une journée de formation pour expliquer aux catholiques qui ont une image très erronée des Écritures, pensant que le Nouveau Testament est nouveau et meilleur que le Premier Testament. Ce qui est absolument faux. Jésus de Nazareth ne connaissait pas le Nouveau Testament. Il ne connaissait que ses Écritures, et ses Écritures lui suffisaient pour qu'il entende l'Évangile. Vous en avez eu, non pas la preuve, mais vous en avez eu la très très belle illustration dans la première séquence de la série, dans le premier extrait, où Jésus, quand il rencontre Marie-Madeleine et l'appelle de son nom, qu'est-ce qu'il fait ? Il lui rappelle les paroles de l'Écriture, c'est-à-dire du prophète Isaïe. Donc l'Évangile, c'est la reprise pour qu'on l'entende de ce qui a déjà été écrit dans les Écritures. Quand Jésus dit aux disciples d'Emmaüs, « Cœur sans intelligence, n'avez-vous pas lu ce qui me concerne dans les Écritures et les prophètes ?» C'est pour dire qu'il n'y a rien d'autre à aller chercher que dans l'écoute de ces textes-là. Soit. L'évangile de Marc commence donc par nous dire, cette parole, elle est déjà là. Mais elle commence en vous si vous l'entendez. Et comment est-ce qu'on entend que ça nous parle, ce qui est raconté et écrit dans ces textes ? Eh bien, le texte d'Isaïe de la série le dit parfaitement. Il dit « Je t'ai choisi, je t'ai racheté, tu es à moi », pas dans le sens où Dieu nous posséderait, mais il dit « Comme les amoureux pourraient seuls se le dire, tu es à moi et moi je suis à toi », réciprocité. Et qui peut dire ça ? un Dieu qui aime de manière inconditionnée. C'est-à-dire un Dieu qui ne dit pas « aimez-moi et en compensation de vos mérites, je vous donnerai le salaire du paradis ou je vous punirai en enfer ». Ça, c'est un Dieu dont j'aimerais bien qu'on le remette à sa place, c'est-à-dire à son inexistence. Le Dieu qui parle en premier dans l'évangile de Marc, c'est une voix, qui dit à Monsieur Jésus, qui sort de Nazareth, on ne sait rien dans l'évangile de Marc, ni d'où il vient, ni où il va. On l'a le jour de son baptême, et ce jour-là, qui est un jour inaugural, il entend une voix qui lui parle de l'intérieur, disant « Tu es mon fils bien-aimé, en toi je mets tout mon désir de vie. » Je traduis, donc, dans la tops, vous lirez, « Tu es mon fils bien-aimé, en toi je mets tout mon plaisir. » Le mot « eudémona » ou « démoneka » ou « eudémonisme » veut dire le bonheur, ou je le traduis par « désir de vie » pour faire entendre quelque chose. C'est pas le plaisir, entre guillemets, hédoniste. Dieu, c'est celui qui dit à un homme « Toute ma vie, tout mon désir, tout mon amour est en toi. » Donc il n'y a que quelqu'un qui aime de manière inconsidérée qui peut dire ça à quelqu'un d'autre. « Tout mon désir d'amour est en toi. » Comme un père ou une mère peuvent le dire à leur enfant. Et bien donc, Jésus, ce jour, parce que ça nous arrive tous d'avoir des jours où on entend, et beaucoup de jours où on n'entend pas, mais ce n'est pas bien grave, parce qu'il suffit d'avoir eu un jour, un seul jour dans sa vie, où l'on entend une voix qui ne peut pas mentir parce qu'on la reconnaît immédiatement. On la reconnaît vraie parce qu'elle nous rend vraie. Et cette voix dit « Tu es mon fils ou ma fille bien-aimée, en toi je mets tout mon désir de vie. » Cette parole que Jésus entend comme une voix qui lui parle est certes une parole que Jésus reçoit singulièrement, à lui adressée comme à un unique. Parce que quand on dit une parole comme celle-là, on ne la dit pas indistinctement comme une généralité. On parle à quelqu'un. Ce n'est pas « les hommes sont les enfants de Dieu », non, c'est « toi, tu es mon fils ». Quand une parole parle, elle ne parle pas à l'humanité. Elle ne parle pas aux gens. Elle parle à vous, elle parle à moi. Et c'est aussi comme ça qu'on se rend compte qu'on entend quelque chose de l'Évangile quand on entend. Qui ne parle pas de l'être humain en général, mais il s'adresse à vous, singulièrement. Qu'est-ce qu'on fait d'une parole qui dit « Tu es mon fils ou ma fille bien-aimée, en toi je mets tout mon désir de vie ». On peut l'accueillir, cette parole, et la recueillir. On peut s'y fermer, s'y refuser. Et le choix de s'y ouvrir ou de s'y refuser, c'est ce que nous ne finirons jamais jusqu'au dernier jour de nos vies de faire ou de passer entre je l'entends et je l'accueille, je l'entends mais j'en ai peur ou je m'y refuse. Et pour vous indiquer que ce test ou cette épreuve sera dorénavant l'épreuve même qui certifie qu'on a bien entendu cette parole, c'est que l'évangéliste fait immédiatement passer Jésus au désert par l'épreuve de 40 jours, ou pendant 40 jours, chiffre certes à vocation symbolique, qui veut dire une durée. Ça veut dire que ça va durer, et il faut du temps pour endurer. Et endurer quoi ? Cette parole, qui est pourtant la plus belle chose qu'on ait jamais entendue, mais qui trouve une résistance en nous. On veut bien que Dieu soit amour, mais on a peur d'être aimé par lui aussi inconditionnellement et aussi absolument. J'ai pas besoin de vous faire des dessins. Donner son amour est plus facile que d'accueillir l'amour de quelqu'un. toutes nos difficultés, toutes nos tristesses, tous nos échecs en amour ne viennent pas tellement de notre incapacité à aimer. Ça vient toujours et essentiellement de notre incapacité à être aimé. Vous pouvez reprendre toutes vos histoires affectives, toutes vos histoires d'amour, mais aussi l'histoire de vous, enfant, par rapport à vos parents, ou de vos parents par rapport à vous, puisque les parents ont aussi à accueillir l'amour de leurs enfants. Vous pouvez reprendre vos histoires de couple, vous pouvez reprendre aussi les histoires simplement de votre vie même professionnelle, puisque enseigner à des élèves, c'est aussi une manière non seulement de les aimer, mais c'est aussi et surtout une manière de recevoir leur amour. Et ça, c'est compliqué. Donc la chose la plus difficile, qui sera l'épreuve de nos vies jusqu'à la fin, ce sera toujours d'accueillir un amour dont on se dit mais je ne le mérite pas. Et pourquoi moi ? Qu'est-ce que j'ai fait pour le mériter ? Parce que nous avons quelque part, mais ça demanderait beaucoup de développement, nous avons quelque part en nous quelque chose, une autre voix que celle qui dit « Tu es mon fils bien-aimé », nous avons une voix qui dit « Il n'est pas bon que j'existe ». C'est une faute d'exister, c'est une erreur. D'ailleurs, c'était peut-être un accident, parce que peut-être que mes parents ne me voulaient pas vraiment. Et ça, ce poids-là, dont l'Évangile voudrait nous libérer, c'est très exactement, d'emblée, dès le départ de l'Évangile de Marc, ce que tout l'Évangile va déployer jusqu'à la fin, en faisant passer Jésus lui-même par la même épreuve. Est-ce que j'accueille cet amour déposé en moi qui fait de moi un fils ? J'ajoute aussi que se découvrir fils ou fille, c'est découvrir en même temps qu'on dépend de quelqu'un d'autre. Et cette dépendance, elle nous embête et peut-être même qu'elle nous fait honte parfois. Et pourtant, ce Dieu qui dit « tu es mon fils ou ma fille » ne conditionne en rien la réponse et vous laisse absolument libre d'y répondre. Et cette phrase n'ajoute pas « si tu n'acceptes pas mon amour, alors gare à toi ». L'enfer est le chemin de la punition pour ceux qui n'accueillent pas. Il n'y a rien de ça dans l'Évangile. Mais il faudra beaucoup de temps pour accueillir cette parole. Je vais terminer, puisque je pense qu'il est temps, juste pour vous dire que je ne suis qu'au tout début de l'Évangile de Marc, mais c'est le moment inaugural qui est le moment décisif. À partir de là, Jésus sort vainqueur, si l'on veut, de cette tentation. La tentation de quoi ? De ne pas vouloir de l'amour dont il est aimé. Cette tentation, c'est la même que la nôtre. Je suis en train de vous dire que ce que Jésus a entendu le jour de son baptême, c'est une parole qui lui était adressée à lui, parce qu'elle est aussi adressée à chacune et chacun. Et que nous passons par le même moment de deuil, de doute et d'épreuve. Mais quand Jésus en sort, il se dit, si moi j'ai entendu cette parole qui me fait maintenant être qui je suis, fils de ce Dieu qui aime, est-ce que ce ne serait pas heureux que tout le monde puisse l'entendre ? Eh bien, Marc, de manière géniale, se dit, je vais écrire immédiatement que Jésus prend la parole pour dire le royaume de Dieu est arrivé. Ça veut dire qu'il y a une révélation pour tout le monde. C'est le moment, dit Marc. Donc, ce n'est pas pour demain, et ce n'est pas un truc d'hier, c'est aujourd'hui, c'est présent. Et il suffit, pour s'y ouvrir, dit Marc, de faire confiance à l'Évangile, de croire cet Évangile à vous révéler et de vous mettre en chemin, c'est-à-dire de changer de logique, de mentalité, parce que quand on reçoit l'Évangile, quelque chose change dans la vie. Et ayant entendu cette parole, Jésus s'en fait maintenant le porte-parole. Et comme on ne peut pas le faire tout seul, parce qu'on ne toucherait pas autant de gens, il se dit, qu'est-ce que je vais faire ? Il me faut une équipe. Et où est-ce que je vais trouver l'équipe ? Parmi les gens. Et les gens, qu'est-ce qu'ils font ? Ils sont pêcheurs, pour la plupart, autour du bord du lac de Galilée. Alors il se dit, ça c'est une compétence professionnelle qui me va bien. Parce que les pêcheurs sont des hommes qui, pour se nourrir et nourrir les autres, vont chercher un poisson qui est dans l'eau où il vit, le tirent avec leur filet pour le donner mort à manger aux vivants. Eh bien, on va prendre leurs compétences professionnelles, mais on va inverser les choses. Au lieu de prendre des poissons morts, vivants pour les tirer morts, je vais leur inviter à prendre des hommes qui sont morts pour les retirer vivants. Et voilà pourquoi Jésus de Nazareth choisit des pêcheurs. Je ne sais pas si ça vous est jamais passé à l'esprit de vous demander, mais pourquoi ? Mais à d'autres moments, il va raconter des paraboles sur les agriculteurs, parce qu'eux aussi ont compris quelque chose. Quand on sème, on ne sait pas ce qui va se passer, mais ça pousse. Voilà. Et je pourrais donc, ce que je viens de faire, et l'on pourrait donc relire, réentendre tout l'évangile de Marc, à partir de ce que j'ai annoncé, que Marc annonce comme étant le commencement, et vous montrer que jusqu'à la fin, ce ne sera qu'une histoire de savoir comment ou non on accueille la parole qui dit « Tu es mon fils bien-aimé, en toi je mets tout mon désir de vie ». Il n'y a plus de distance entre Jésus et vous, puisque vous êtes vous-même ceux et celles à qui cette parole s'adresse d'eux-mêmes. Jésus n'est plus une figure mythologique ou un monstre théologique à deux têtes, mi-homme, mi-dieu. Il est un homme qui a tellement accueilli en plénitude la parole qui dit « Tu es mon fils » que nous reconnaissons en lui le Fils. Si vous ajoutez plus à ça, vous refaites des spéculations théologiques qui n'ont ni queue ni tête. Si vous entendez ça, alors Jésus reste bien devant nous, mais juste à notre portée et devant nous, le Fils qui appelle des fils et des filles. Merci encore une fois. Je vous avais si encore au moins 5 ou 10, oui, 5 minutes.